Pas de centenaire à Vebray, de Marc Potier. Nouvelle publiée dans le recueil Révalité. Premier épisode. L'action se déroule à Vebray, paisible commune du Cantal, paisible jusqu'à ces terribles journées de 1995.
Robert se tenait devant la dépouille mortelle de son ami, triste, mélancolique, dubitatif surtout. En aucune manière, il ne pouvait accepter cette mort. Il avait quitté René en pleine forme la veille, vers 18h30. Le fait qu'il ait eu 98 ans n'était pas suffisant à ses yeux pour justifier un départ si rapide. L'observation soutenue du visage le confirmait dans son jugement. Non qu'il ait pu relever des éléments probants, mais il se dégageait du mort une impression de refus qu'il ne lui connaissait pas. Bien sûr, le docteur lui avait dit que la mort déformait les visages et que l'expression dernière était plus une manifestation organique que celle de l'âme avant son envol. Mais Robert, s'il l'avait écouté attentivement, ne l'avait pas entendu. Ce jeune docteur ne pouvait pas savoir. Il n'avait rien connu. Pas la mort, en tout cas. La mort que René lui-même avait côtoyée trop longtemps au quotidien dans les tranchées du nord de la France. La guerre leur avait fait violence. Ils avaient dû quitter leur village durant près de 2 années. Leur village les avait ensuite retrouvés, réenfantés et conservés jalousement jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette mort malhonnête. René n'avait plus de famille. Il ne faudrait pas chercher un éventuel coupable de ce côté-là. Il avait bien été un peu marié. La Louise s'était intégrée à leur amitié, puis les avait quittés. Il y a près de 20 ans, sans lui avoir fait d'enfant. Quelques neveux, aujourd'hui disparus, de toutes les façons, il n'avait pas d'autre bien que ce bout de bâtisse et son carré de jardin. C'est bien l'État qui hériterait, et l'État est insoupçonnable. Les amis du village étaient passés, les autres, et puis les uns, pour aider, consoler, pour parler un peu de la vie. C'est important dans ces moments-là. René reposait à présent pour sa dernière nuit en liberté. Robert avait tenu à rester seul, avait refusé toute compagnie. D'abord, il avait réellement envie de rester seul. Ensuite, il avait sa petite idée. Il recomposait à présent méticuleusement les événements de la veille, leur routine, les nouvelles, leur santé, le jardin, une promenade, 2 ou 3 canons, et quelques tours de cartes avant de regarder un peu la télé en bavardant beaucoup. Et puis chacun chez soi. Dans la seule lumière intime et vacillante des cierges, agenouillé sur un prie-dieu prêté par le curé, il fermait les yeux, laissant lourdement poser son buste sur les avant-bras. Sa tête, inclinée vers le sol, disparaissait au creux de ses robustes épaules paysannes, érodées par les labeurs et le temps. Ses mains, impuissantes, se torturaient. Ainsi calé, concentré en lui-même, il voyait avec une acuité intense le visage de son ami lors de leur dernière rencontre. Il en avait maintenant la certitude. À partir d'un certain moment, ses expressions n'étaient plus coutumières. Il s'était passé quelque chose. Mais quoi ? À midi, ils avaient mangé ensemble, tout allait très bien. L'omelette concoctée avec les cèpes qu'il venait de ramasser était ordinairement sublime. L'automne, généreux, leur avait en outre offert un roupillon dehors, devant la maison, assis sur le vieux banc de pierre, affaissé par des fessiers multiples. Quelle belle vie était la leur! Désormais, il sera seul. Il sent le froid sur ses épaules et va garnir le poêle que Firmin lui allumait tout à l'heure. L'arrière-saison est fraîche, ne prend pas froid. C'est assez d'en avoir perdu un. Il jette un œil au dehors, au travers des carreaux ternes. C'est la nuit. La lune, que pointillent les nuages sous le vent du nord, donne à l'espace une saveur blafarde. Le village paraît dormir. Il est plus de 11 heures. Peut-être est-il le seul éveillé. Un cri aigu déchire la nuit, qui ne lui donne pas de frisson. Il le connaît bien. C'est une renarde qui appelle ses petits pour la curer. La fête. Il retourne à son ami, se donne un petit moment avant d'agir. Il veut l'absolue certitude d'être seul éveillé. Il s'allonge sur le lit, au flanc de son ami, droit, sur le dos, et lui jette rapidement un regard complice. Le plafond, coloré de fumée, est tapissé de mouches endormies. Il repasse une nouvelle fois le film de leur après-midi. À quel moment y a-t-il eu un déclic ? Après, René était différent, absent, tendu peut-être. Deux ou trois fois, il avait dû le rappeler à l'ordre durant la manille. C'était très inhabituel. Mais sa forme était bonne, pas celle de quelqu'un qui va mourir dans la nuit, sans prévenir. Par moments, le lit s'étant réchauffé de sa propre présence, il a l'impression que René n'est pas mort. Il risque une main hésitante. Mais son voisin est bien en raideur. Robert soupire. Ses pensées se précisent à présent. Son ami était rentré alors que lui encore somnolait, dehors. C'est à son retour que l'expression était différente. Qu'était-il parti faire? Il n'arrive pas à fixer sa pensée. Impossible de se rappeler. Alors, une nouvelle fois, comme pour chercher une aide, il attrape le bras de René, le serre fermement et baisse ses paupières. Un craquement sinistre l'arrache à sa recherche. Ce bruit, il ne le connaît pas. Que se passe-t-il? Prestement, il s'arrache à la couche ultime, aussi vite que le permettent ses 97 ans. S'approche de la fenêtre, de la pièce contiguë, noyée dans la pénombre. Il scrute l'extérieur. Rien. L'autre fenêtre n'est pas plus généreuse en ses explications. Une sourde tension le pénètre. Il y a bien longtemps qu'il n'en a pas connu de tel. C'était dans les tranchées, quand la mort était là, à toucher. Dans son village, il n'a jamais connu cette émotion-là. Des tensions, certes, à la chasse, dans certains travaux dangereux, lors d'une chute, mais pas à ce point-là. Que se passe-t-il donc?
Mais que se passe-t-il? Vous le saurez en suivant le prochain épisode. Cette lecture est aussi disponible sur humanoriste.com.
Chet Baker. Misty.